La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, on continue avec la politique, mais c'est le Parti libéral, Pierre-Yves, qui a pris l'engagement. Marc, ils sont loin du pouvoir, mais quand même, là, d'abolir les droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue pour les acheteurs d'une première maison.
Oui, et disons-le, les élections s'en viennent. Ça fait partie d'une plateforme qui va être éventuellement complète. Et là, ça me fait sourire un peu parce que enlever le droit de mutation pour acheter une première maison, ça ne change pas la transaction initiale. Tu sais, quand tu es un premier acheteur puis tu te bats avec ton voisin pour acheter une maison puis tu fais des offres, bien, le droit de mutation vient après et souvent, il est même pas dans l'équation de l'acheteur. Il regarde son budget mensuel, combien ça coûte. Étant donné que les droits de mutation ou les taxes de bienvenue, c'est un coût seulement. Il est pas répétitif, ça arrive une fois. Et là, le libéraux dit, on avait promis de doubler le crédit pour l'achat d'une première propriété. On va laisser faire ça. On va à la place enlever les droits de mutation pour les premiers acheteurs et pour les gens qui se matchent avec un premier acheteur qui veut acheter. Je te donne un exemple. Tout le temps farfelu parce que c'est mon genre. Tu prends un multimillionnaire qui joue au hockey dans la Ligue nationale, se fait échanger à Montréal, rencontre une amoureuse ou un amoureux qui n'a jamais acheté une maison, ben, il y aura une partie des droits de mutation, la totalité, j'imagine, ça dépend de la règle, comment il l'applique, qui sera pas payable par un gardien de but du Canadien ou un défenseur. Techniquement, je te prends tout le temps cet exemple-là parce qu'il est fort. Si tu trouves ton contre-exemple, tu te rends compte comment des politiques, des fois, sont moins bonnes. Bon, ça, c'est la première affaire. Deuxième point, c'est que le but dans la vie, là, c'est d'aider les acheteurs, parfait, de première maison, parfait, ben, bloquer un peu l'espèce de principe de surenchère. Ben, si tu donnes des avantages à des acheteurs, ben, t'aides la demande, hein, t'aides pas l'offre de maison. Et donc, tu ne fais qu'envenimer le problème.
OK, mais je vais te poser une question. Pour toi, quel est le meilleur moyen, compte tenu des ingrédients qu'on voit, là, pour aider quelqu'un ou une famille là, qui veut acheter sa première maison?
Le silence sera ma meilleure réponse parce qu'il n'y en a pas.
La
seule façon, c'est de leur offrir un logement subventionné, une aide au logement, des logements sociaux, construire ou s'arranger pour construire plus de logements pour qu'il y ait un équilibre sur le marché. Parce qu'on a beau mettre toutes les mesures anti-flip, les mesures pour aider les premiers acheteurs. S'il n'y a pas plus de maisons, il y a un combat. S'il y a un combat, les gens font la surenchère. Et le bon exemple, c'est qu'on veut monter le RAP à 50 000. Ils en ont parlé il y a quelques mois, puis c'est revenu dans l'actualité. Ben, pour un couple, 100 000, que les parents puissent aider. Ben, si tu es en train d'être capable d'emprunter sur le régime de retraite de tes parents puis sur le tien pour acheter une maison, ben, faut que tu le rembourses quand même. Puis que tu as plus de mise de fonds à cause de l'emprunt sur ton régime de retraite, ben vous allez être plus à vous battre pour faire une offre sur une maison. Donc, t'aides pas. Faut que t'aides à l'offre de maison, c'est-à-dire au parc immobilier. Ça, toutes les façons que le gouvernement peut aider, c'est une bonne façon. Toutes les mesures que le gouvernement met en place pour aider l'acheteur à mettre plus d'argent sur la table, il n'aide pas l'acheteur. Il l'aide à concentrer son risque dans une maison, à se forcer à rembourser un régime de retraite. Donc, tu sais, il n'aide pas. Mais il dit aussi qu'il veut aider le logement social. Là, ça, c'est bon. Là. Mais il faut arrêter de mettre des mesures électoralistes là, pour aller chercher un vote. Là. Ça ne sert à rien. Okay? Vous envenimez le problème.
OK.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Là, on voit ce matin une étude là, qui remonte à la fin décembre, mais on l'a tous réalisé, c'est-à-dire une augmentation de 10-15% du prix de la facture au restaurant.
Oui, et moi, je dis, ça me fait rire un peu qu'on parle autant de la facture du restaurant. C'est-à-dire que là, il y a un reportage dans la presse ce matin qui dit là, il y a une augmentation du coût des restaurations, là, de la restauration, il y aura une augmentation des prix de 10-15%. Oui, c'est la main-d'œuvre, l'île de Canola, etc. Mais pourquoi ça nous frappe autant? Ça nous frappe autant parce que le restaurant, le café, ça fait partie d'une habitude de consommateur. Et donc, le consommateur connaît très bien le prix de son café le matin. C'est exactement que son café plus son bain coûte 5,76 $ au coin de la rue. Et là, ça... Non, mais c'est ça.
Non, je le sais.
C'est ça. Comme le monsieur ou la dame qui va au restaurant le vendredi soir, comment c'est que mon risotto est rendu 45 $ au lieu de 36? Et là, le restaurateur doit se justifier. Il est comme tous les commerces, là. Mais il doit justifier parce qu'il fait face à une clientèle d'habitude. Qui plus est, en plus que tu as une clientèle d'habitude, tu es frappé par des augmentations, disons, ponctuelles. Salaire minimum, le coût de la viande, le coût des matières premières. Par rapport à d'autres commerces qui ont des marges, de la couverture de risque, de la couverture avec des instruments financiers, qui sont dans une autre ligue. La restauration, c'est du terre à terre, c'est tout de suite à côté. Et il y a la perception. Le restaurant, au niveau du consommateur, c'est le premier luxe. Qu'est-ce que je veux dire par luxe? Je vais aller voir la définition. Luxe, mode de vie caractérisé par une grande dépense consacrée au superflu. Le restaurant, c'est pas du superflu dans notre tête, mais c'est le premier superflu qu'on se paye. Un café au coin de la rue, un beigne, un dîner avec un ami, un souper galant. Et donc, on est frappé rapidement bien plus que par le prix de l'augmentation de voiture que tu changes aux 8 ans usagé. Et donc, ça, là, le restaurateur est pris dans la réalité qu'il est le premier choc inflationniste du consommateur.
Parce que ça paraît, tu sais, je vais te donner l'exemple des gens qui vont déjeuner au resto.
Oui. T'sais, souvent.
Tu sais, ouais, ils sont habitués de payer tant, par exemple. Puis là, on parle pas de rien de
d'extravagant.
Non. Puis là, ça frappe plus. Tu comprends? Tu te dis, ça me coûtait 15 avant, là, ça me coûte, whoop, 19.
Ouais.
Puis là, tu dis, ben j'y allais deux fois par semaine. Donc, avec tout ce qui augmente, je vais être obligé de couper. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr, tu le dis, c'est un petit luxe qui nous fait du bien. Puis en même temps, ben puis je blâme pas le restaurateur. Il fait face aux augmentations. Quand tu vois le prix du bœuf, je regardais le prix du crabe en fin de semaine. Il n'y a pas grand monde qui va être capable de se payer ça. Là.
Et c'est combien? Parce que tout le monde m'envoie des photos du crabe.
Ben oui, mais...
Écoute, il paraît que c'est vraiment cher, tu le connais.
Oui, non, mais ça n'a jamais été aussi élevé que ça, je pense.
OK, puis tu sais, il y a des trucs. Je vais donner des trucs aux gens que je trouve... Le truc du restaurateur, le meilleur que j'ai vu, c'est que moi, j'étais un fan de surf and turf avant, hein, le terre et mer.
Ouais.
Donc, j'avais du bœuf puis du homard à une autre époque. Maintenant, c'est poulet et grosses crevettes. Ben, non, mais tu sais, c'est encore un surf and turf.
Tu l'as ajusté. Merci, voilà. Mon cher. Bonne journée. Money.
C'est 23.